Vous écoutez
RMC. RMC, le petit déj média.
On prend le petit déj avec Maxime Guény, journaliste média, notamment à Téléstar, Média Plus, qui remplace Rémi Jacob. Nouveau membre donc de la team Anaïs Matin, qu'on a toujours plaisir à accueillir quand Rémi n'est pas là. Bonjour Maxime.
Bonjour Anaïs, bonjour à tous. Bonjour
Maxime, ce matin, tu nous parles des plateformes de streaming et de l'intelligence artificielle.
Oui Anaïs, et on va commencer par une petite expérience. Je vais vous faire écouter deux extraits. L'un est chanté par un humain et l'autre par une intelligence artificielle. À vous et aux auditeurs, bien sûr, de deviner lequel est lequel. Premier extrait, c'est parti. Some friends, some story starts, some just end. Every tear I shed don't wash me clean of all them fake folks and broken dreams. Et on enchaîne avec le deuxième extrait à présent.
In your life, the dark can settle in.
Le premier c'est l'IA, le deuxième c'est une vraie.
Non, l'inverse.
L'inverse.
Moi, le premier était l'IA.
Franchement, impossible à dire, et vous avez raison parce que je vous ai piégé. Les deux extraits sont en réalité générés par intelligence artificielle. Et ce qui est fou, c'est que ces morceaux ne sont pas seulement des tests, ils cartonnent déjà. Aux États-Unis, le titre country que vous venez d'écouter, Walk My Walk, a été numéro 1 des téléchargements. Et le deuxième extrait, là encore, une artiste générée par IA, Sienna Rowe, c'est son nom, qui cumule des centaines de milliers d'écoutes. Autrement dit, pour la première fois, les classements musicaux sont dominés par des artistes qui n'existent pas.
Ah ouais, mais du coup Maxime, ça représente quoi aujourd'hui l'IA dans la musique ?
Ça va très vite. Aujourd'hui, on estime que près de 40% des nouveaux morceaux mis en ligne chaque jour sont générés par IA. Soit environ 60 000 titres par jour. 60 000 ! C'est comme si on produisait en une journée plus de musique qu'en plusieurs décennies auparavant. Et surtout, 97% des auditeurs sont incapables de faire la différence entre une voix humaine et une voix artificielle.
Moi, je ne voyais pas la différence. Hein. Et même vous, je suis sûr que vous avez dit le premier parce qu'il fallait répondre quelque chose. Non.
Oui, c'est un peu au pif quand même.
Ça perd son charme quand même.
Vous dites ça maintenant que vous savez, mais
on va pas se mentir non plus. La plupart de la musique aujourd'hui utilise du vocodeur, donc il y a plus trop de différence. Hein.
Elles font quoi, Maxime, les plateformes face à ça ?
Elles réagissent, mais chacune à leur manière. Par exemple, Deezer a fait un choix très efficace : signaler les contenus générés par IA et les exclure des recommandations. De son côté, Spotify riposte également. La plateforme lance cette semaine un label Verified by Spotify. C'est une coche verte pour certifier que l'humain est derrière, et pour l'obtenir, il faut prouver une vraie existence, des concerts, des réseaux sociaux, une activité réelle.
Mais est-ce que ça inquiète vraiment l'industrie ?
Oui, énormément, parce que derrière, il y a un enjeu économique colossal. Le streaming musical, c'est aujourd'hui plus de 500 millions d'abonnés payants dans le monde. Donc, si une partie de ces écoutes bascule vers des contenus générés par IA, c'est tout l'équilibre de marché qui est en jeu.
Ouais, donc c'est une vraie révolution.
Oui, elle est en marche. Aujourd'hui, une machine peut générer une chanson en quelques secondes, imiter une voix, un style, une émotion, et face à ça, les artistes réagissent. Cette semaine, Taylor Swift a annoncé vouloir protéger sa voix comme une marque. Autrement dit, la bataille ne se joue plus seulement sur les chansons, mais sur les identités des artistes. Et la vraie question, Anaïs, qu'est-ce qui rend encore un artiste unique ? Vous avez 3 heures.
Il est 8h54. Maxime, dans le reste de l'actualité média, on parle aussi d'un sujet qui va intéresser Ali, fidèle auditeur d'RMC qui est toujours avec nous en plateau. On parle aussi de la Coupe du Monde 2026.
Et à l'approche de cet événement footballistique qui aura lieu du 11 juin au 19 juillet, on apprend une chose, notre façon de regarder les matchs change complètement. La télé reste centrale, mais elle n'est plus seule. Et selon une étude Epsilon, aujourd'hui 76% des spectateurs utilisent un deuxième écran pendant les matchs. Bien souvent notre téléphone. On regarde, mais on commente, on envoie des messages, on est sur les réseaux, et au final, seuls 24% regardent un match sans distraction. Fred, je suis sûr que c'est ton cas. Concentration.
Je dois reconnaître que maintenant j'ai beaucoup le téléphone portable pendant les matchs.
Ouais, ça te sort pas de
l'image ? Non, j'ai un œil sur chacun. Enfin, c'est parce que je regarde parfois les commentaires qu'il y a sur
X. C'est peut-être pour ça que t'as trouvé que le match cette semaine, c'était pas le match de l'année.
Elle est longue cette semaine. Non, mais je trouve que le foot se prête aussi au double écran. Ce que tu vas regarder, ah, tiens, tel joueur, mais il était où avant ? Paf, et tu regardes l'identité d'un joueur. Ah, je pense. Tu vois, si tu cherches des informations sur les joueurs.
Ali ?
Moi, je vais vous faire la réponse idéale. Téléphone en écoutant RMC.
Ah, oh, c'est parfait.
C'est la réponse.
c'est tout ce qu'il faut faire, exactement. Donc on regarde différemment, Maxime.
Exactement, l'attention est fragmentée, on est dans une expérience multi-écran, mais malgré ça, la Coupe du Monde reste un rendez-vous. 78% des Français prévoient de la suivre. Avec un détail intéressant, seuls 4 sur 10 sont des fans réguliers. Les autres viennent pour l'événement, pour le côté collectif, j'avoue en faire partie.
Et on pourra la suivre où ?
En télévision sur M6, BeIN Sport, et sur votre radio préférée, RMC, qui sera d'ailleurs radio officielle de la Coupe du Monde 2026.
J'ai hâte. On termine avec le chiffre du jour.
22, c'est le nombre d'années écoulées entre le lancement de Zodiac, la célèbre saga de l'été de TF1, et son grand retour en 2026. Le premier épisode de cette nouvelle saison a été présenté cette semaine au Festival Cannes Série, et les premières réactions sont très positives, avec un élément clé, le retour de Francis Huster, déjà présent en 2004, qui fait le lien entre les générations. Et ce qui frappe, c'est que les fans d'hier seront sans doute encore au rendez-vous demain. Certaines racontent même qu'ils suivaient déjà la série en famille il y a 20 ans. Preuve que la nostalgie reste un moteur très puissant à la télévision. Rendez-vous donc dans les prochaines semaines sur TF1.
Ah ouais, Zodiac, vous regardiez, vous ? Non, j'ai l'impression que Fred Armel l'a
fait. Non, ça me dit rien.
Ça m'est arrivé de regarder, ouais.
Ouais.
Mais bon, moi, ça me fait peur, le réchauffer un petit peu.
Ouais.
C'est la tradition des sagas d'été.
Ah bah
on nous remet souvent des rediffusions. Aujourd'hui, on a de l'inédit, c'est plutôt pas mal, non ?
Oui. Merci beaucoup, Maxime, et bon dimanche.